prison dans Jean 20, à partir du verset 11 jusqu'au verset 29. Mais Marie se tenait près du sépulcre, dehors, et pleurait. Comme elle pleurait donc, elle se baissa dans le sépulcre, et elle voit deux anges vêtus de blanc, ainsi un à la tête et un aux pieds, là où le corps de Jésus avait été couché. Et ils lui disent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Et elle leur dit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se tourna en arrière, et elle voit Jésus qui était là. Et elle ne savait pas que ce fut Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si toi tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi je l'ôterai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle s'étant retournée, lui dit en hébreu, « Rabboni », ce qui veut dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala vient rapporter aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit ces choses. Le soir donc étant venu, ce jour-là, le premier de la semaine, et les portes du lieu où les disciples étaient, par crainte des Juifs, étant fermées, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Et il leur dit, « Paix vous soit !» Et ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Jésus donc leur dit encore, « Paix vous soit !» Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ayant dit cela, il souffla en eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis, et à quiconque vous les retiendrez, ils sont retenus. » Or Thomas, l'un des douze appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples donc lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « À moins que je ne voie en ses mains la marque des clous et que je ne mette mon doigt dans la marque des clous, et que je ne mette ma main dans son côté, je ne le croirai point. » Et 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant fermées, et il se tint au milieu d'eux et dit, « Paix vous soit !» Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule mais croyant. » Thomas répondit et lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. »
Quelques mots d'introduction sur ce que nous avons devant nous aujourd'hui. Premièrement, j'espère qu'il n'y a pas de répétition sur hier soir. Le Seigneur est présenté dans cet évangile, selon Jean, particulièrement dans 2 gloires. La première, qu'il est le Fils éternel du Père éternel, le Fils de Dieu. Et on le voit partout dans cette gloire qui est la gloire la plus haute que possible. Aussi, dans nos paragraphes, on voit le Seigneur comme Dieu. Par exemple, quand ils disent dans le verset 17, « Je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Verset 21, « Comme le Père m'a envoyé. » Verset 28, « Thomas répondit et lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Le Seigneur est Dieu lui-même. Mais il y a une deuxième gloire qui est montrée partout dans cet évangile et qui fait la personne de notre Seigneur très, très précieux pour nous, c'est qu'il est présenté comme homme. Et plus que dans l'évangile selon Luc, le Seigneur est montré dans cette nature, dans cette perfection de l'homme. Aussi, dans ces paragraphes ici, on voit qu'il a pris toujours une position sous Dieu. Il est Dieu, mais quand il est venu ici sur la terre, il a pris une position comme homme qui était sous le règne, sous l'autorité de son Père de son Dieu. Ici, on voit par exemple son cœur, comme il dit Marie. C'est l'homme qui est devant nous. On voit qu'il montre ses blessures. Ça montre qu'il était vraiment homme. Et certainement, si nous voyons ici ce chapitre, qui est le chapitre de la résurrection de notre Seigneur, c'est l'homme qui est ressuscité. Dieu est toujours. Mais l'homme Jésus était mort et l'homme était, Jésus était ressuscité. Et ce fait est vraiment très important. Nous voyons dans toutes les prédications dans les actes que les apôtres ont souligné toujours que l'évangile est basé sur le fait que celui qui était mort, que lui était ressuscité. Parce que nous avons l'évangile de quelqu'un qui vit, qui est maintenant glorifié dans le ciel. On voit dans 1 Corinthiens 15 comment cette vérité est importante, que le Seigneur est ressuscité. Si on ignore ou même nie cette vérité, on perd tout. On perd tout. La résurrection fait directement partie, 1 Corinthiens 15, verset 3, sauf erreur, de cet évangile. Et c'est la raison pour laquelle ces chapitres comme Jean 20 et les autres évangiles sont si importants. Maintenant, l'évangile selon Jean, normalement, ne parle pas des époques, des dispensations. C'est plutôt que Jean parle de la direction de Saint-Esprit sur les gloires de notre Seigneur et sur les actions de sa personne pour montrer, parce que Dieu a voulu montrer sa gloire. Et quand même, nous voyons ici, sans aucun doute, dans ces trois paragraphes, et en plus le premier paragraphe du chapitre 21, que Dieu nous montre qu'après la mort de notre Seigneur et sa résurrection, il y a différents groupes, des croyants, différentes familles qui existaient sur la terre et qui vont exister encore sur la terre plus tard. Et premièrement, et ça c'est remarquable en fait, je reviens à la fin sur cette pensée encore une fois, que la première pensée, c'est ce résidu juif qui était à côté de notre Seigneur quand il a vécu ici sur la terre et qui a resté ici sur la terre quand le Seigneur était mort et ressuscité, même quand le Seigneur était glorifié dans le ciel. Il y avait, pour ainsi dire, ce germe de l'assemblée plus tard, qui était ce résidu juif duquel Marie ici est un type. Et ce résidu a vu le Seigneur comme ressuscité, et ce résidu est par cela était capable de témoigner que le Seigneur était vraiment ressuscité. Après, dans le paragraphe du verset 19 à 23, nous voyons le type de l'assemblée aujourd'hui, de ses disciples qui étaient réunis dans cette salle avec les portes fermées, où le Seigneur est venu au milieu d'eux. Et certainement, on entend par cela cette expression dans Matthieu 18 quand les deux ou trois sont réunis en son nom, le Seigneur est en milieu d'eux. Et ici, nous voyons dans le verset 19 à 23, alors, un type de notre temps ici, aujourd'hui, où l'assemblée est sur la terre, avec le Seigneur en milieu d'eux, en même temps dans le ciel. Mais ce sera encore un autre temps plus tard, versets 24 à 29, ou même jusqu'à la fin de ce chapitre, où nous voyons comme Thomas quelqu'un qui n'a pas la foi dans son cœur sans voir, mais seulement quand il a vu et, pour ainsi dire, touché le Seigneur. Et c'est un type du résidu futur quand le Seigneur aurait, quand il va avoir pris son assemblée au ciel et quand il va revenir sur la terre pour créer ce nouvel résidu, ce nouvel peuple de Dieu, Israël, pour être ses témoins ici sur la terre. Et juste pour compléter ce tableau, dans le chapitre 21, nous voyons quand les sept disciples vont ensemble pour pêcher et le Seigneur revient encore une fois. Nous voyons ce fil des poissons avec 153 poissons qui parlent des nations qui, par le moyen des missionnaires juifs, vont être convertis pour accepter Jésus aussi comme leur maître, comme leur Dieu. Alors, il y a aussi une famille des nations dans l'avenir qui vont accepter Jésus comme leur centre, pour ainsi dire. Ça veut dire que nous avons quatre groupes. Et par ces quatre groupes, nous voyons aussi le changement des choses. La première groupe, versets 11 à 18, nous voyons une nouvelle position. Ces Juifs étaient sur la terre, liés avec le Seigneur. Et le Seigneur introduit pour eux une nouvelle position qui est montrée ici par cet ordre du Seigneur quand il parle à Marie, « Ne me touche pas ». On va voir cela certainement plus tard, que la nouvelle position, même pour ce résidu, n'était plus une position de toucher, de voir, mais une relation spirituelle. Et cette relation est basée premièrement, ou cette nouvelle position est basée premièrement sur la résurrection du Seigneur et deuxièmement sur une nouvelle relation avec le Seigneur. Pour l'Assemblée, versets 19 à 23, on voit une nouvelle ordre des choses. Une nouvelle ordre qui est montrée par le nouvel jour, le premier jour de la semaine. Avant, c'était le samedi, le sabbat. Maintenant, c'est le premier jour de la semaine. Et cette nouvelle position est basée sur la mort de notre Seigneur. Elle montre ses blessures. Et aussi par sa révélation comme celui qui est du Père. Une position qui met les croyants dans une relation avec Dieu le Père. Dans la troisième groupe, Thomas comme résidu, nous voyons un nouvel commencement. Il est remarquable que verset 26, le huit jours après, certainement c'est aussi un dimanche, le premier jour de la semaine, mais huit jours, le nombre huit montre un nouvel commencement. Il sera un nouvel commencement pour un peuple juif ici sur la terre. Ils étaient perdus par crucifier le Seigneur. Mais maintenant, il y a une nouvelle chance, un nouvel commencement pour eux, basé certainement aussi sur la croix du Seigneur, les blessures, mais aussi basé sur leur regard vers le Seigneur. Ça veut dire maintenant, ils vont reconnaître dans le Seigneur, pas seulement sa gloire comme Messie, mais aussi sa gloire comme Dieu. Et juste pour compléter, vers chapitre 21, nous voyons aussi, il y a pour ces nations, il y a une nouvelle, qu'est-ce qu'on peut dire, une nouvelle position. Mais pour eux, c'est plutôt, nous voyons ici, un nouvel élargissement. Quand le Seigneur était sur la terre, il a dû dire une fois, Luc 12, verset 50, « J'ai à être baptisé d'un baptême, et combien suis-je à l'étroit jusqu'à ce qu'il soit accompli ?» Il était étroité, qu'est-ce qu'on peut dire ? Comment ?
À l'étroit.
À l'étroit, parce qu'il est venu juste pour les Juifs. Mais dans le millénium, on va voir qu'il y a un élargissement aussi, un nouvel élargissement pour ces nations ici sur la terre. Et ça, c'est basé certainement sur la présence et la venue du Seigneur et sur son ordre. Il a dit à ses disciples de pécher. Ça veut dire que c'est le Seigneur par son ordre qui invite aussi les nations. Pour ne pas devenir trop long, ces quatre groupes, on voit au moins trois autres fois dans cet évangile selon Jean. Je donne seulement les chapitres. Premier chapitre et le début du deuxième chapitre nous montrent aussi quatre jours. Avec exactement ces quatre groupes. Dans le chapitre 10, le Seigneur, comme le bon berger, on voit aussi ces quatre groupes. Commencer par le Seigneur qui prie les Juifs au dehors de leur bergerie originale, jusqu'à la fin. Et aussi, chapitre 11 et 12, c'est Lazare, le résidu juif, c'est Marie, comme un type de l'assemblée. Après, ils reçoivent le Seigneur comme Messie. Et plus tard, ils sont les Grecs qui sont venus. On voit encore une fois les mêmes groupes. Je le nomme seulement parce qu'il y a déjà dans l'Ancien Testament ces quatre groupes qui sont montrés dans ce psaume qui montre le Seigneur comme le sacrifice pour le péché. Psaume 22. Dans ce psaume 22, après la mort de notre Seigneur, pour ainsi dire, après sa résurrection qui est montrée dans ce psaume, par le verset 22 au milieu, « Tu m'as répondu d'entre les cornes des buffles. » Et alors, verset 23, « J'annoncerai ton nom à mes frères. » C'est le résidu comme Marie au début. « Je te louerai au milieu de la congrégation. » C'est l'assemblée. On peut même traduire ce mot par « au milieu de l'assemblée ». Verset 26. « De toi vient ma louange dans la grande congrégation. » Ce sont les Juifs à l'avenir. Et verset 28. « Tous les bouts de la terre se souviendront et se tourneront vers l'Éternel. » Et toutes les familles des nations se prosterneront devant toi. Ce sont les nations, chapitre 21. Alors, c'était, pour ainsi dire, toujours dans le cœur de Dieu, dans les plans de Dieu, d'avoir ces quatre groupes pour manifester la gloire du Seigneur et pour répondre à la mort et des souffrances de notre Seigneur, pour louer le Seigneur. Et revenons sur le verset 11 de notre chapitre. Marie se tenait près du sépulcre. Il est pour moi remarquable que le résidu juif des débuts a reçu par Dieu une position spéciale. Normalement, on pense... C'est pour ainsi dire la germe de l'assemblée, et c'est vrai. Mais parce qu'ils étaient dans un temps de transition, Par ailleurs, on ne le trouve pas, cela, pour l'avenir, au début du temps des souffrances, des tribulations. Mais ici, on trouve souvent cette pensée qu'au début, il y avait ce résidu juif qui est certainement devenu l'assemblée plus tard. Mais le Seigneur a apprécié ce dévouement, cette obéissance, cette relation avec ceux qui étaient avec lui dans sa vie ici sur la terre, qu'il donne à eux une position spéciale. Et c'était en fait à eux, Marie, comme les autres, que le Seigneur s'est révélé comme celui qui est ressuscité. Vraiment des passages qui nous montrent la gloire de notre Seigneur. Mais ici, en comparaison avec chapitre 1 et 2, en relation avec ces quatre groupes directs et leur foi ou quelquefois aussi leur incrédulité.
Nous voyons alors dans le verset 11 dont nous venons de parler déjà, Marie. Marie comme représentante de ce résidu juif à l'époque, quand le Seigneur était sur la terre. En contraste, bien sûr, avec, il ne faut pas confondre, hein, avec le résidu juif futur qu'on verra plus tard dans Thomas, comme il a été expliqué. Alors, cette Marie, son nom complet est donné dans le premier verset, où il dit « Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint le matin au sépulcre. » Alors cette Marie de Magdala, on la rencontre déjà dans Luc chapitre 8. Je vais juste lire un verset. Dans Luc 8, verset 2, il y a question des femmes qui ont servi le Seigneur Jésus. Et parmi elles, il dit, celle qu'on appelait Magdalène, de laquelle étaient sortis sept démons. Alors cela nous fait connaître un peu plus cette femme, son passé. Elle était autrefois sur le contrôle complet, absolu de Satan. Et elle avait été libérée de ce pouvoir satanique, démoniaque, par le Seigneur. Et maintenant, elle apparaît dans ce chapitre de la résurrection. Et Marie est en contraste, en plein contraste avec les deux disciples mentionnés avant, dans les versets 2 à 10. Là, on trouve Pierre et Jean. Quand Marie avait su que le tombeau était vide, il dit dans le verset 2, elle court donc, elle vient vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple, alors Jean. Elle leur dit, on a enlevé du sépulcre le Seigneur. Alors cela nous montre un peu la condition de cœur du résidu au début. La seule conclusion que Marie avait pu tirer, c'était un vol. La pensée de la résurrection ne lui vient pas dans la tête. Elle dit, on a enlevé le corps du Seigneur. Alors les disciples se rendent là-bas vers le tombeau. Ils regardent ce qui s'est passé. Il y a Jean qui arrive d'abord. Il y a Pierre qui entre dans le tombeau. Puis Jean après. Et il dit dans le verset 9, ou 8 plutôt. Alors donc, l'autre disciple aussi, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra et vit et crut. Alors ça, ce sont les deux disciples. Ils entrent, ils voient, ils croient. Ils sont convaincus, mais seulement à partir des faits, à partir de l'évidence, on peut dire. Oui, de l'évidence. Et le résultat est donné juste après. Verset 10, les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Pourquoi? Ils avaient vu les fêtes, mais la réponse est donnée dans le verset 9. Ils ne connaissaient pas encore l'Écriture qu'il devait ressusciter d'entre les morts. Alors ce n'était pas vraiment la foi, pas encore. Juste une conviction à partir des faits. Et c'est pour cela qu'ils sont prêts à rentrer chez eux. Pour eux, l'affaire est finie pour le moment. Mais pas pour Marie. C'est pour ça que je le mentionne, parce que cela nous aide à comprendre un peu l'état de cœur de Marie. Verset 11. Mais Marie, déjà ce mot « mais » indique le contraste entre Marie et les disciples. Peut-être on pourrait dire que les disciples avaient une mesure de connaissance, mais Marie, elle avait l'amour. Ce n'était pas encore l'amour avec connaissance, mais elle avait l'amour pour le Seigneur. Et c'est pour cela qu'il dit « Mais Marie se tenait près du sépulcre ». Elle dit « Si mon Seigneur n'est pas là, si même son corps n'est pas là, moi je reste là où il était, le dernier. » Comme on a dit, pour elle, le monde sans le Seigneur était comme un tombeau vide. Alors elle se tient là et elle pleure. À cause de son amour, elle est dans cette détresse. Mais la détresse ne va pas durer. On verra bientôt dans ce paragraphe que les pleurs sont suivis par la joie. Pourquoi? Parce que le Seigneur se révèle à un cœur qui est rempli d'amour pour lui. Il ne se révèle pas forcément à ceux qui ont la plus grande connaissance, mais il se révèle au cœur où se trouve cet amour pour lui. Alors, elle est là, elle pleure, elle se baissa dans le sépulcre et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis, l'un à la tête, l'autre aux pieds, là où le corps de Jésus avait été couché. Et c'est très intéressant, les frères vont sans doute expliquer ce rencontre entre Marie et ces deux anges. Elle ne semble pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'elle est occupée du Seigneur Jésus. Elle ne semble même pas penser que c'est nécessaire d'expliquer de qui elle parle. Pourquoi? Parce que son cœur est rempli du Seigneur Jésus. Et elle suppose que le cœur de chacun doit être rempli de Jésus. Et que chacun doit savoir de qui elle parle et qui est cette personne qui a rempli son cœur.
À celui qui a été beaucoup pardonné, il aime beaucoup. Voyons cette Marie de Magdala, à qui a été pardonné, délivré de ses sept démons. On a vu, elle a été complètement sous le pouvoir de Satan. Et maintenant, elle a été libérée de ses sept démons. Et elle, nous voyons dans Luc 8 qu'elle a suivi et lui a servi avec ses biens. Avec tout ce qu'elle avait, elle voulait le suivre, elle voulait lui donner tout. Et maintenant, nous la voyons là, au sépulcre vide. On la voit d'abord, déjà, sous la croix. On la voit quand le Seigneur a été mis dans le tombeau. Et maintenant, on la voit au tombeau. Et c'était la première qui est venue. La première, parce qu'il y avait cet amour qui l'a tiré vers son Seigneur. Elle voulait être là où était son Seigneur, même s'il était mort. Elle voulait être là. Et nous, est-ce que nous l'aimons tellement que nous voulons être là où est le Seigneur? Même si on n'a pas assez de connaissances, mais si on se rend compte de quel péché, de combien le Seigneur nous a aimés pour nous livrer, pour se donner lui-même pour nous, pour nous livrer du pouvoir du Satan, délivrer de ce pouvoir. Alors, maintenant, on la voit là. On voit aussi les deux autres disciples. Comment dire ? Il y en a un qui a dit, je t'aime plus que les autres. Alors, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a renié son maître. On voit l'autre qui s'est même rendu compte. Il parle de lui, c'est le disciple que le Seigneur aimait. Mais maintenant que le Seigneur est mort, on dirait presque que l'amour s'est un peu baissé aussi. L'amour s'est couché aussi. Alors, les deux disciples rentrent chez eux. Pour moi, c'est une phrase assez triste. Est-ce que c'est aussi notre ressentiment ? Nous, on se rend compte des faits et alors, ça y est, c'est comme ça. On rentre chez soi et la vie normale recommence. Mais là, il y a une âme qui l'aime vraiment, qui veut être là où est son Seigneur. Et maintenant, elle ne le voit plus, alors elle est vraiment triste. Elle pleure. Et elle est, comme on pourrait dire, elle est sans espoir. Tout ce qui était sa vie et n'est plus là. Est-ce que le Seigneur est notre vie ? Est-ce que nous ressentons s'il y a quelque chose, un vide dans nos cœurs ? Et est-ce que nous sommes tristes parce qu'il n'y a plus cette communion avec le Seigneur ? Ou est-ce que je rentre chez moi et je mène ma vie habituelle ? Ou est-ce qu'il y a comme un mari qui se tient là, elle pleure. Et qu'est-ce qu'il y a ? Quand elle cherche son Seigneur, c'est déjà, il y a ces anges qui la demandent. Et puis, le Seigneur lui-même va se révéler à elle.
Vous allez lire un verset dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12. Verset 34. Car de l'abondance du cœur, la bouche parle. On voit dans ce que dit Marie l'abondance de son cœur. Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, je ne sais où on l'a mis. Qui est-ce qui remplit le cœur de Marie ? Qui est-ce qui est le centre, on peut dire, de ces paroles ici ? C'est bien mon Seigneur, le sien. Le reste, on peut dire, n'a aucune importance. L'objet de son cœur, il est entouré par on a enlevé, je ne sais où on l'a mis. Quelque chose de tout à fait impersonnel. Le reste n'a aucune importance. Et cela nous rappelle l'apôtre Paul qui dit dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3, et je regarde même aussi toute chose, donc c'est le verset 8 du chapitre 3 des Philippiens, et je regarde même aussi toute chose comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur, à cause duquel j'ai fait la perte de toutes et je les estime comme des ordures, afin que je gagne Christ et que je sois trouvé en lui, n'ayant pas ma justice qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, la justice qui est de Dieu, moyennant la foi, pour le connaître lui, et la puissance de sa résurrection, et la connaissance et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort, si en quelque manière que ce soit, je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts. Eh bien, on voit ici deux cœurs qui ont, on peut dire, le même objet, le même désir, une personne. C'est la personne du Seigneur Jésus qui est mon Seigneur, et
La question nous est posée à chacun. Est-ce qu'il est véritablement mon Seigneur? Est-ce que mon cœur brûle pour lui, pour que véritablement il ait tous ses droits sur ce cœur qui lui appartient parce qu'il l'a racheté?
Donc on l'a souligné tout à l'heure, il est dit des disciples qu'ils rentrèrent, ils retournèrent donc chez eux. Ils avaient un chez eux. Marie n'avait rien que le Seigneur, mais c'était tout. Marie, on pense qu'elle était bien seule dans cette circonstance. Et plusieurs d'entre nous pouvons goûter la solitude aussi. Marie, quand elle était venue au sépulcre, elle l'avait vu vide. Alors, elle va vite vers ses frères, vers Pierre, Jean, les disciples, pour leur dire cette nouvelle, pour leur annoncer ce qu'elle a découvert. Elle va, les disciples viennent, ils repartent, comme s'ils passaient à côté d'elle sans la voir. Combien cela aussi peut toucher nos cœurs et parler à nos cœurs. Nous pouvons rencontrer des détresses sur le chemin, autour de nous. Est-ce que nous allons faire comme Pierre, Jean, passer et laisser cette âme seule? Marie, nous la voyons ici, elle est dans un deuil profond. Elle avait eu affaire vis-à-vis de son Seigneur à la mort. Elle avait perdu une première fois quand elle avait vu sur la croix où des hommes l'avaient cloué. D'une certaine manière, elle avait perdu une première fois. Et là, elle le perdait comme une seconde fois. Il n'y avait même plus son corps dans le tombeau où elle savait qu'il était. Et quel deuil profond manifeste ainsi Marie par ses paroles. Et nous savons que plus l'attachement est profond, plus le deuil est profond aussi. Mais si on voit que dans ces circonstances, les disciples ne peuvent pas aider Marie, nous voyons comment le Seigneur, lui, vient à sa rencontre. Marie, nous l'avons souligné, il y avait un amour immense dans son cœur pour son Seigneur. Il y avait aussi beaucoup d'ignorance. Mais c'est pour dire à chacun ici, vous pouvez ne pas connaître toute chose, vous pouvez peut-être ne pas connaître grand-chose, mais si votre cœur est rempli d'amour pour le Seigneur se manifestera à vous. Je voudrais juste lire comme il s'est manifesté ici à Marie. Dans le chapitre 14, que voyons-nous? Au chapitre 14 et au verset 19, le Seigneur dit à ses disciples avant de les quitter, avant d'accomplir cette mort qu'il a accomplie à Jérusalem. Au verset 19 du chapitre 14, donc « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. » Et un peu plus loin au verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » On voit ici toutes les conditions dans le cœur de Marie pour que le Seigneur se manifeste à elle. Et le Seigneur, lui, ne passe pas à côté de ce besoin, à côté de cette affection qu'il savait profonde pour lui dans le cœur de Marie, à travers même son ignorance. Et on le voit ici. Et il dit « Marie ». Et Marie reconnaît le Seigneur, elle ne le connaît pas tout de suite. Et pour nous aussi, quelquefois, le chemin peut ne pas être immédiat pour entrer dans l'intimité de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, au travers de circonstances difficiles qui peuvent nous, comme ici, écraser d'une certaine manière Marie. Et au travers de ces choses-là, on peut effectivement se sentir, mais petit à petit, amené vers le Seigneur. Et on voit d'abord le Seigneur parle, il parle de femme. Et c'est comme si elle ne le reconnaît pas à ce moment-là. C'est quand il lui parle, il lui dit son nom, alors c'est à ce moment-là qu'elle le reconnaît et qu'elle peut dire « Rabboni ». Elle reconnaît son Seigneur dans celui qu'elle prenait pour le jardinier. Et combien c'est beau aussi, ça nous montre
combien ce qui est important, justement, c'est cette relation. C'est quand nous avons ce contact avec un Seigneur, et là, le Seigneur était vivant, avec un Seigneur vivant qui nous appelle, qui nous nomme par notre nom. Et c'est quand il y a ce contact, cette relation qui s'établit, alors seulement il peut y avoir cette bénédiction et cette paix qui rentre dans le cœur, parce qu'on voit que Marie était agitée en pleurs, et on voit qu'après il semble qu'elle devient bien plus paisible que ce qu'elle était au début.
Je voudrais souligner dans ce chapitre 20 et aussi dans 19 la présence du verbe « voir ». Si nous lisons dans Jean 19, verset 35, il nous est dit « Et celui qui l'a vu rend témoignage, et son témoignage est véritable, et lui sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyez. » Et nous voyons que dans l'Évangile, dans ces chapitres 19 et 20, le but de l'apôtre, de Jean, eh bien, c'est que nous croyons. Et dans ce chapitre 19, ce verset 35, nous montre que Jean a été le témoin oculaire de la crucifixion. Dans le chapitre 20, nous voyons à plusieurs reprises ce terme, ce verbe « voir ». Et nous voyons que l'Esprit de Dieu insiste sur ce qu'ont vu ces témoins oculaires. Si nous lisons en particulier, il nous est dit qu'au premier verset du chapitre 20, que Marie de Magdala vint le matin au sépulcre, comme il faisait encore nuit, et elle voit la pierre ôtée du sépulcre. Au verset 5, nous voyons que Jean, s'étant baissé, il voit les linges à terre. Et Simon-Pierre aussi nous est dit, au verset 6, il entra dans le sépulcre et il voit les linges à terre. Et alors donc, verset 8, l'autre disciple aussi, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra et il vit et crut. Et nous voyons donc que l'Esprit de Dieu insiste fermement sur ce qu'ont vu ces témoins oculaires. Et si nous lisons dans le passage que nous avons lu, au verset 14, ayant dit cela, Marie de Magdala se tourna en arrière et elle voit Jésus qui était là. Est-ce que nous avons à cœur de voir Jésus? Nous souvenons dans Jean 12 les Grecs qui désiraient voir Jésus. Il me semble que dans ce passage, et si nous le disons un peu plus loin encore, au verset 21, les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Et encore, verset 25, les autres disciples donc lui dirent, nous avons vu le Seigneur. Et pour Thomas, verset 29, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. Je voudrais insister sur ce point que les disciples ont vu la crucifixion. Ils ont été présents au pied de la croix. Que Marie de Magdala, une femme donc, qui aimait le Seigneur, qui occupait pleinement son cœur, eh bien, le Seigneur s'est révélé à elle en premier. « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Et donc, elle voit Jésus qui était là. Et pour citer encore dans la première épître de Jean, nous voyons que l'apôtre insiste sur ce fait dans le premier chapitre et au premier verset, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux et que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Quel privilège pour les disciples d'avoir vu la crucifixion et puis réaliser la résurrection de leur Seigneur.
Une petite remarque sur le passage qui est devant nous. On voit que d'abord il y a ce premier dialogue entre Marie et les anges qui étaient dans le sépulcre. Et il lui pose la question, « Femme, pourquoi pleures-tu ?» Elle leur répond au verset 13. Et puis on voit que verset 14, le Seigneur s'approche par derrière. Il n'est pas encore, il s'approche, il devient présent. Et on voit que les anges ne poursuivent pas la conversation. Et il me semble que ça montre la grandeur et la dignité du Fils de Dieu. Quand le Fils de Dieu s'approche, les anges se taisent et lui laissent la place pour continuer le dialogue avec Marie. Et donc Marie se retourne, elle voit Jésus, et Jésus lui propose la même question que celle que les anges ont posée, « Femme, pourquoi pleures-tu ?» Et il rajoute cette question, « Qui cherches-tu ?» Et dans le passage parallèle dont Manuel nous a parlé en introduction, dans Jean chapitre 1, on voit que deux disciples qui le suivent, le Seigneur pose la question, « Que cherchez-vous ?» Et là, c'est plus ciblé, c'est pas seulement « Que cherchez-vous ?» mais c'est à Marie, c'est « Qui cherches-tu ? » Quelle est la personne après laquelle tu aspires ? Quelle est la personne que tu désires ? Et elle ouvre son cœur de nouveau. « Seigneur, si toi tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi je l'ôterai. » C'est frappant, cette nouvelle réponse de Marie. Elle ne pense qu'au corps mort du Seigneur. Elle n'imagine pas du tout, comme on a déjà mentionné, qu'il était ressuscité. Et même, on dirait qu'elle est, excusez-moi l'expression, mais qu'elle manque de réalisme, de pragmatisme. Elle dit, j'irai et je l'ôterai. Comme si elle avait la force de prendre toute seule un corps mort et de le déplacer. Mais ça nous montre dans un sens combien elle était remplie d'amour pour lui et d'un autre côté qu'elle voyait pas peut-être vraiment, elle était transportée dans son amour et peut-être qu'elle perdait de vue les réalités plus terrestres. Et c'est là donc que le Seigneur lui parle, Marie, le bon berger qui appelle sa brebis par son nom. Et il suffit d'un mot qu'il prononce son nom pour qu'elle réalise qui il est. Rabboni, ce qui veut dire maître. Et donc on voit qu'en l'appelant ainsi Rabboni, elle retrouve celui qu'elle avait perdu. Mais c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le Messie. Le Messie qu'elle, avec les autres femmes et les disciples, qu'ils avaient entouré sur la terre, elle pense le retrouver le même que celui qu'ils avaient perdu. Mais au verset 17, le Seigneur va lui dire, on va peut-être voir ça après la pause, mais ce n'est pas les mêmes relations que tu vas retrouver avec moi, mais c'est de nouvelles relations que tu vas avoir avec moi.
On a dit, la clé pour la croissance spirituelle, c'est l'amour au Seigneur. L'intelligence ne dirige pas à l'amour. Mais l'amour va être toujours répandu par le Seigneur pour nous faire croître dans la connaissance de sa personne et de sa grâce. Certainement, il n'est pas suffisant d'aimer le Seigneur, mais son amour, tout est rien. Et le déclin de l'Église était l'abondance de l'amour, de la première amour, ou le commencement de l'abonder, c'est là, Apocalypse 2. Et comme ici, c'est toujours le cas, le Seigneur va répondre à un cœur qui l'aime. C'était déjà vu quand Marie a parlé de lui à la fin du verset 13, « Mon Seigneur ». Ce n'était pas quelqu'un, c'était « Mon Seigneur ». Rabouni, ça montre qu'elle est en train d'apprendre par le Seigneur. Son cœur est touché par ce mari. Et maintenant, le Seigneur répond dans le verset 17, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Certainement, on pense à Matthieu 28, où les femmes, c'était seulement un petit peu plus tard, ont retrouvé le Seigneur, et il est dit, Matthieu 18, verset 9, 28, qu'est-ce que j'ai dit? Pardon, merci. Chapitre 28, il est dit dans le verset 9, et comme elles allaient pour l'annoncer à ses disciples, voici aussi Jésus vint au-devant d'elles, disant « Je vous salue ». Et elles, s'approchant de lui, saisirent ses pieds et lui rendirent hommage. Ça nous montre que, en effet, les deux choses étaient vraies, étaient l'histoire, pour ainsi dire. Marie a vu le Seigneur et le Seigneur est en train de se révéler d'une manière extraordinaire, d'une manière que jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire qu'il n'était pas révélé ces relations avec le Père et les relations dans lesquelles il va mettre les disciples. Il a plusieurs fois déjà montré cela, mais ils n'ont pas compris, comme on voit avec Jean et Pierre. Et maintenant, de nouveau, il ne va pas seulement révéler cela, mais il va mettre ses disciples, ses croyants, dans cette position. Et par cela, parce que c'est maintenant une relation céleste, avec le Père, il n'y a plus de touchement, il n'y a plus de relation terrestre. C'est comme on voit dans 2 Corinthiens 5, où l'apôtre Paul dit exactement cela. Il dit dans les versets 16, je lis à partir du verset 15, « Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. En sorte que nous, désormais, nous qui étions des Juifs avant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si même nous avons connu Christ selon la chair, toutefois, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. » Il y a une nouvelle création, verset 17. Ça montre que les relations ont changé. Il y a des nouvelles relations. Il y a une nouvelle position dans laquelle Dieu a placé les croyants maintenant. Et c'est l'enseignement dans Jean 20. L'enseignement dans Matthieu 18 est le résidu juif par ces femmes, montré par ces femmes, les femmes sont le type de ce résidu juif à l'avenir, duquel nous parlons encore une fois avec Thomas. Ça veut dire, Thomas est pour ainsi dire le parallèle de ces femmes de Matthieu 28. Et Marie ici nous montre que le Seigneur a placé les siens maintenant dans une toute autre position et relation. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il a parlé plusieurs fois qu'elle était en train d'aller vers son Père. Et maintenant, c'était encore plus proche. Et comme lui va aller vers le Père, il place ses disciples, il place les siens, ce résidu, dans la même relation avec le Père que lui a comme homme. Cela est montré dans la suite, je ne vais pas parler de cela. Certainement, la seule chose que j'aimerais dire, le Seigneur s'identifie avec les croyants ici sur la terre, avec ce résidu, avec l'assemblée plus tard. Et il les met, pour ainsi dire, dans les mêmes relations qu'il a goûtées, qu'il a enjouies toujours comme homme sur la terre. Et certainement maintenant comme ressuscité, celui qui était ressuscité, qui est dans le ciel. Mais certainement, il reste toujours une distance. Ça veut dire que le Seigneur va avoir toujours une relation spéciale, une relation qui est encore plus haut que la relation que nous pouvons avoir. C'est la raison pour laquelle il parle « Je monte vers mon Père et votre Père ». Il ne parle jamais de notre Père. Il reste toujours avec une position, une relation qui est plus haut que la relation que nous pouvons goûter, même si notre position, notre relation avec le Seigneur et avec le Père est vraiment une relation élevée.
Je crois qu'on a évoqué tout à l'heure le fait que il y a souvent, et l'évangile selon Jean nous présente souvent un progrès, une progression dans la foi des personnes. On peut citer plusieurs exemples, je pense que c'est un des caractères de cet évangile. On peut penser à l'aveugle né, Jean 9, et on peut lire dans tout ce chapitre la façon dont le Seigneur va amener cet homme à le connaître comme le Fils de Dieu. On peut penser à Nicodème, c'est pas tout à fait pareil, mais trois fois Nicodème apparaît dans l'évangile et on voit aussi qu'il y a un progrès, une progression qui se fait plus doucement, plus lentement, mais il y a un progrès. On pense aux expériences de Marie de Béthanie, l'expérience de la mort de Lazare, puis la façon dont Marie peut être amenée à offrir ce parfum en Jean 12, à oindre les pieds du Seigneur de ce parfum en Jean 12. C'est un évangile dans lequel on voit des personnes qui, un travail divin dans l'âme qui progresse, et d'ailleurs Jean lui-même dans sa première épître nous montre aussi qu'il y a dans notre vie chrétienne à chacun cette progression, ce qui est, je trouve, très encourageant. Nous avons tous à faire des progrès, mais il est bon de passer par une étape puis par l'autre, et c'est normal, c'est le développement de la vie dans notre âme. Alors Marie, elle fait ici, il y a une évolution dans ce qu'on voit chez Marie, et c'est très important. Effectivement, à la base de tout, il y a l'amour de Marie, mais cet amour, il ne suffit pas, comme on l'a dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que Marie va s'attacher au Seigneur, à un Seigneur mort, au corps du Seigneur. Elle veut ôter ce corps du Seigneur. Pourquoi? En fait, le Seigneur va lui se révéler à elle et tout va changer. Tout va changer parce que Marie va maintenant connaître son Sauveur vivant, son Seigneur vivant et ressuscité. Et c'est fondamental. C'est fondamental pour toute notre vie chrétienne. Nous avons une relation avec un Sauveur qui est vivant, qui est ressuscité, qui est monté auprès du Père, auprès de Dieu. Et c'est ce qui donne sa puissance et sa force à notre vie chrétienne. Et on voit des changements qui sont assez touchants de façon pratique. D'abord dans le message de Marie, au verset 2 du chapitre, Marie, elle vient vers Pierre et vers l'autre disciple, et elle leur dit « On a enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où on l'a mis. » Elle est dans une totale ignorance. Elle a vu le Seigneur, mais au verset 18, elle a vu le Seigneur. Et qu'est-ce qui change ? Marie de Magdala vient rapporter aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit ces choses. Quel changement merveilleux entre le moment où Marie n'a rien à dire que sa détresse et son, si on peut dire, son, qu'elle n'a rien, qu'elle n'a plus rien. On a enlevé le Seigneur, elle ne sait rien. Et puis, maintenant qu'elle a vu le Seigneur, qu'elle l'a rencontré, elle peut dire, mais elle l'a vu et il lui a parlé et elle rend compte de ce qu'il lui a dit. Cette relation avec un Seigneur vivant, c'est le témoignage, c'est ce qui va être la source du témoignage que Marie va pouvoir rendre. On l'a dit tout à l'heure, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Mais entre le cœur plein d'amour, mais aussi plein d'ignorance de Marie au verset 2, et le cœur plein d'amour, mais rempli de la personne du Seigneur de Marie au verset 18, quel changement. Puis un autre changement, peut-être que j'aurais aussi eu à cœur de souligner, c'est Marie dit, elle commence par dire, on a enlevé du sépulcre le Seigneur, puis après elle dit, mais ils ont, au verset 13, on a enlevé mon Seigneur, je ne sais où il est. Et puis elle dit au Seigneur, pensant que c'est le jardinier, dis-moi où tu l'as mis et moi je l'ôterai. De plus en plus, Marie est amenée à se centrer de plus en plus sur elle-même, dans sa détresse, dans sa souffrance. La souffrance l'amène à se centrer de plus en plus sur elle-même. Mais quand elle a vu le Seigneur, c'est tout le contraire. Elle va vers les disciples, elle va vers les disciples, et elle leur rend ce témoignage qu'elle a vu le Seigneur, qu'il lui a dit ces choses, et les disciples vont être collés. Elle peut partager ce témoignage. Quand elle était centrée sur sa douleur, tout se concentrait sur elle-même, c'était « je l'ôterai, c'est mon Seigneur », mais quand le Seigneur lui a paru, il l'envoie vers ses frères et vers ceux qu'il appelle mes frères. Et Marie comprend cette relation nouvelle. Elle a cette relation nouvelle avec le Seigneur, mais il en découle aussi cette relation nouvelle avec les croyants. Elle est envoyée vers les disciples pour leur rendre ce témoignage de ce qui remplit son cœur.
Je voudrais juste faire un petit parallèle, une ébauche entre trois personnes, Marie de Magdala bien sûr, mais dans l'ordre d'abord la pécheresse de Luxette, dont on voit aussi comment elle était tournée vers le Seigneur. Mais l'arrière-plan, c'est le péché et la repentance. Chemin de péché, puis un demi-tour, et un chemin de repentance avec un regard vers le Seigneur qui en partie portait certainement une part d'interrogation. Serais-je reçu ? Puis-je être pardonné ? Une deuxième personne, c'est Marie de Béthanie. Son arrière-plan, c'est une femme tournée vers Dieu et qui avait une faim, assise aux pieds du Seigneur pour l'écouter. Et qui a discerné beaucoup de choses, pas tout bien évidemment, et qui, en Jean 12, apporte l'adoration, avec peut-être pas le même, dans son cœur, peut-être pas le même aspect que celui que le Seigneur relève. Le Seigneur, il nous dit que la maison a été remplie de l'odeur du parfum. Dans le cœur de Marie, c'était plus une adoration, une louange. Le Seigneur le tourne, le parfum pour sa sépulture. C'était pas encore le temps de cette adoration pour le Seigneur ressuscité. Il y avait la mort avant. Et puis là, Marie, son arrière-plan, c'est cette délivrance. Le Seigneur était littéralement son sauveur. Il l'avait délivré de ses 7 démons. Et comme ça a été relevé, Marie au début de ce paragraphe, Marie à la fin de ce paragraphe, c'est plus la même personne. Et je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, par rapport à voir. Oui, mais que voyait-elle quand il nous est dit, verset 11, elle pleurait. Que voyait-elle à travers les larmes? Que distinguait-elle, que pouvait-elle distinguer à travers les larmes? Et ces larmes sont là, dans tous ces versets, et on peut dire, c'est quand le Seigneur dit Marie, que les larmes s'effacent. La voix qui lui parle, qui l'appelle par son nom, arrête les larmes. Et alors elle voit autrement. Et juste, ça a été relevé, il y a se voir et au fond ne pas voir, et il y a se voir et croire. Et on a là, dans ces trois femmes, ces trois manières, ces trois histoires, ces chemins qui ont des départs différents pour converger tous vers ce même chemin. Le mot Seigneur devient qu'elle a vu le Seigneur, l'amour est transformé en celui qui est vainqueur et qui est vivant. Le corps, ça aussi était déjà évoqué, le corps du Seigneur n'a plus tellement d'importance, c'est le Seigneur qui a toute cette importance. Ça rejoint aussi cette pensée que nos chemins sont différents. Nous connaissons, nous apprenons à connaître, nous découvrons, nous avançons dans cette connaissance du Seigneur, chacun par des chemins différents que ces trois femmes peuvent nous illustrer.
On a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. Qui c'est qui a enlevé le Seigneur? C'est le monde. Le monde a crucifié le Seigneur Jésus. Et Marie le réalise. Elle est seule. Elle est dans la solitude, elle pleure. Le monde a crucifié le Seigneur Jésus et le Seigneur va s'occuper des siens. On a enlevé mon Seigneur, je ne sais où on l'a mis. Et puis, ce moment où le Seigneur lui dit « Marie ». Il y a un changement important dans la situation de Marie. Marie est dans les ténèbres, mais pas, elle est avec un cœur qui aime le Seigneur, mais dans les ténèbres de ce monde qui a rejeté le Seigneur Jésus qui l'a crucifié. C'est les ténèbres. Et puis là, c'est un soleil qui se lève. Marie, c'est une relation toute nouvelle dans laquelle elle va entrer. Va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père. Va vers mes frères. Est-ce que ce n'est pas une expression que nous avons que là, du Seigneur Jésus lui-même? Va vers mes frères. Pensons à l'Épître aux Hébreux, chapitre 1. Nous pouvons lire ce verset, verset 11. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Chapitre 2, verset 11. Va vers mes frères et dis-leur. Ici, le Seigneur n'a pas honte de nous appeler frères. C'est quelque chose qui remplit nos cœurs de reconnaissance, de louange, d'adoration. Mais on ne va pas dire au Seigneur, tu es mon frère. Le Seigneur est au-dessus. Mais va vers mes frères, une relation nouvelle. Le Seigneur n'a pas honte de nous appeler frères. Et c'est vraiment une pensée qui peut nous pénétrer à travers cette parole qu'elle va annoncer aux disciples. Va vers mes frères. Le Seigneur n'a pas honte de nous appeler frères. J'annoncerai ton nom à mes frères au milieu de l'assemblée. Je chanterai tes louanges. Et je pense à un autre verset qui, qui est bien connu dans l'Épître aux Romains, où le Seigneur est rappelé dans toute sa grandeur. Verset chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. Le Seigneur Jésus est le premier-né, celui qui est au-dessus, celui qui est à l'origine de cette nouvelle relation. Va vers mes frères et dis-leur, je monte. Est-ce que nous pensons aussi à cette expression, je monte? Le Seigneur, dans sa grandeur, comme le Fils de Dieu, monte auprès du Père. Je monte vers mon Père. Il devient votre Père. Je monte vers mon Dieu. Il devient votre Dieu. Le Seigneur ouvre cette relation dans laquelle, toute nouvelle, dans laquelle nous entrons, comme ceux que le Seigneur appelle ses frères.
Nous sommes donc arrivés ici, dans le verset 17, dans un verset d'une importance fondamentale pour comprendre ce que c'est le christianisme, ou ce que ça veut dire d'être chrétien. On pourrait dire que dans le verset 17, nous avons l'inauguration d'une nouvelle dispensation. Ça semble un peu compliqué, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Ça veut dire que le Seigneur confie la tâche importante à Marie d'annoncer un nouveau début, le commencement de cette nouvelle époque. Cette époque on pourrait dire, cette dispensation chrétienne. Et comme petit conseil pour les jeunes, j'espère que je suis assez âgé maintenant pour donner des conseils aux plus jeunes. C'est une très bonne étude de voir dans les Écritures où est-ce qu'il y a des changements d'époque, où est-ce que Dieu change les règles. Parce que si on ne le comprend pas, on ne peut pas agir avec intelligence. Comme chrétien, on risque de se comporter comme si on était un juif. Ou peut-être comme si, il y a beaucoup de chrétiens qui le croient, hein, comme si on vivait déjà dans la tribulation. Alors regardons un peu ce changement. Jésus lui dit, ne me touche pas. On comprend très bien Marie. Elle aime le Seigneur, elle pensait qu'il avait disparu, que quelqu'un l'avait ôté, et tout à coup, il n'est pas seulement là, mais il est vivant. Alors combien elle doit avoir été contente de voir le Seigneur ressuscité, vivant dans sa présence. Maintenant, elle est contente. Elle veut le garder comme ça. Elle pense, maintenant, on a retrouvé le Messie, il va bientôt établir son règne sur la terre, que ce sera merveilleux. Et elle veut le toucher, juste comme les femmes en Matthieu 28. Et le Seigneur dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Alors comment comprendre cela? D'abord, elle doit avoir été très étonnée qu'il dise ne me touche pas. Et en plus, la raison qu'il donne, comme ou car je ne suis pas encore monté. Une fois qu'il serait monté vers son Père, ce serait forcément impossible de le toucher. Alors ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté. Mais nous avons entendu par les frères que cela veut dire, Marie, tu veux avoir une relation avec moi, d'accord? Mais ce n'est pas une relation sur la terre, de toucher le Messie vivant sur la terre. C'est une relation avec moi dans le ciel. Une relation spirituelle. Une relation complètement différente. Et peut-être vous dites, oui, mais nous, on n'a pas ce problème. On n'est pas le résidu juif du passé qui attend le Messie. Oui, mais attention. Combien de croyants aujourd'hui, ils regardent le Seigneur comme celui qui dirige ou qui a son royaume dans le monde, et ces croyants se regardent comme citoyens de son royaume. Ils pensent que leur devoir le plus élevé, ce serait d'améliorer le monde. Alors c'est très semblable à ce que nous avons ici, de vouloir retenir le Seigneur ici, de prétendre qu'il y a déjà son royaume et qu'on aurait la tâche de mettre le monde en ordre ou d'améliorer le monde aujourd'hui. Alors si on vit comme ça, j'ose dire, on n'a pas bien compris ce que ça veut dire d'être un croyant, d'avoir les nouvelles relations, de vivre et d'être associé avec un Seigneur qui est dans le ciel à la droite de Dieu. On peut réfléchir un peu sur les cantiques qu'on trouve par ici et par là, où on s'adresse à Dieu comme le Tout-Puissant, où on s'adresse au Seigneur comme le Messie. C'est la même chose qu'ici. On veut retenir le Seigneur ici dans des relations terrestres. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur. Maintenant, nous avons cette annonce de cette nouvelle dispensation, cette nouvelle époque. Je monte vers mon Père et votre Père. Dieu était connu dans l'Ancien Testament comme le Dieu Elohim, le Créateur. Il avait déjà agi comme l'Éternel, celui qui existe éternellement, et il s'est révélé comme tel à Abraham, à Moïse. Il avait agi dans ce caractère avant, mais à Moïse, il a fait connaître ce nom de l'Éternel. Et Abraham le connaissait comme le Tout-Puissant. Si on regarde un peu, si on compare un peu, c'est merveilleux de connaître le Créateur. Et c'est merveilleux de connaître celui qui a toute puissance. Et encore mieux, de connaître celui qui prend un intérêt dans les hommes, qui veut une relation avec les hommes comme éternelle. Mais qu'est-ce que tout cela comparé avec une connaissance de Dieu en tant que Père? Et c'est ce que le Seigneur ouvre ici devant nous. Une relation merveilleuse, bien plus étroite avec Dieu. Alors, que le Seigneur nous donne de saisir ce que c'est le christianisme, ce que c'est de vivre en tant que chrétien, de savoir mon intérêt. C'est l'intérêt de celui qui est dans le ciel. Je suis lié avec lui. Les intérêts du Seigneur sur la terre, ce sont nos intérêts aujourd'hui. Ce n'est pas d'améliorer le monde, mais c'est deux choses principales. C'est de répandre l'évangile et de travailler pour le bien de ceux qui sont au Seigneur. Alors, message merveilleux, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et ce message merveilleux, il confie à Marie, non pas parce qu'elle avait une connaissance tellement grande, mais parce qu'elle avait l'amour pour le Seigneur dans le cœur. Alors qu'il nous donne d'apprécier plus ces relations nouvelles, célestes, chrétiennes.
Cette nouvelle relation, elle est donc basée sur la résurrection Si on regarde ces sept premiers versets du chapitre 20, les dix premiers versets du chapitre 20, il est parlé sept fois de sépulcre. Et puis, une fois que on peut dire le Seigneur est là, reconnu comme mon Seigneur, on ne parle plus de sépulcre, c'est la vie. Et je voudrais revenir sur ces deux questions dont on a déjà parlé. Qui cherches-tu dans notre chapitre? Et puis le premier chapitre de cet évangile, c'est la question qui est posée: que cherchez-vous? Mais peut-être qu'il nous faut lire un tout petit peu plus loin. La suite, c'est les disciples donc lui dirent « Rabbi », ce qui interprété signifie « Maître, où demeures-tu ? » Il leur dit « Venez et voyez ». Ils allèrent donc vivre où il demeurait et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. Que cherchez-vous? Où demeures-tu? L'ancienne relation, si nous regardons la pensée, le désir de Dieu, dans Deutéronome 12, il nous est dit au verset 4, déjà le verset 1, nous sommes donc dans le pays, et au verset 4, vous ne ferez pas ainsi à l'Éternel votre Dieu, mais vous chercherez le lieu que l'Éternel votre Dieu choisira d'entre toutes vos tribus pour y mettre son nom, le lieu où il habitera, et vous y viendrez, et vous apporterez là vos holocaustes et vos sacrifices et vos dîmes et l'offrande élevée de vos mains et vos vœux, et vos offrandes volontaires, les premiers-nés de vos gros et de votre menu bétail. Et là, vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et vous vous réjouirez, vous et vos maisons, et toutes les choses auxquelles vous aurez mis la main, dans lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni. Sans doute que nous reviendrons sur ce passage, je ne veux pas trop avancer, mais on voit que l'Éternel dit, vous chercherez le lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira. Et on comprend que dans le début de cet évangile de Jean, la question soit posée, non pas qui cherchez-vous, mais que cherchez-vous? Le lieu, sans doute, où l'Éternel avait mis la mémoire de son nom, mais un Dieu caché derrière le voile. Cependant, l'Israélite devait chercher. Et dans ce premier chapitre, eh bien, c'est « Que cherchez-vous ?» On peut dire que le Seigneur n'est pas encore passé par la mort, la résurrection n'est pas là, mais l'Israélite pieux doit chercher le lieu en obéissance à la pensée de Dieu. Mais une fois que la résurrection est là, dans ce chapitre 20, eh bien, c'est la personne, sans doute, le lieu est attaché, est lié à la personne, mais c'est véritablement la personne du Seigneur Jésus qui doit être cherchée. Et on voit bien quelle progression de Marie en rapport avec ce que le Seigneur lui révèle. Et on peut dire qu'on fait la liaison avec la suite de ce chapitre 20, à partir du verset 19. C'est un tout, on peut dire. Le Seigneur nous ouvre là des horizons de cette nouvelle relation merveilleuse, extraordinaire. Elle passe par cette relation avec le Père, dont le désir du cœur est de voir les siens. Et c'est remarquable de voir que cette vérité, il la donne à Marie, qui va l'annoncer à ses frères. Et puis cette autre femme de Jean 4, c'est aussi à une femme que le Seigneur va révéler le désir du cœur du Père. Le Père cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité, mais dans ce lieu de la présence du Seigneur Jésus.
J'aimerais montrer ce que Michael a dit, que ici nous avons vraiment, pour ainsi dire, le cœur du christianisme, ça veut dire le cœur de la doctrine chrétienne. Le Seigneur a dit, je monte vers mon Père et votre Père et vers mon Dieu et votre Dieu. Si vous regardez Éphésiens 1, verset 3, et l'épître aux Éphésiens, c'est le prototype, pour ainsi dire, c'est le contenu de ce qui est la foi chrétienne. Et comment est-ce que l'apôtre commence cet épître? « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Ça veut dire que c'est sa relation et il nous a introduits dans cette relation et c'est le Dieu et le Père qui nous bénissent ici déjà dans notre vie sur la terre comme ceux qui sont déjà placés dans le ciel. La même chose, 1 Pierre 1, celui qui était très proche ici, dans Jean 20, nous voyons avec Pierre, aussi verset 3, 1 Pierre 1, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. » Alors ça montre vraiment, ces relations n'existaient pas avant de la résurrection de notre Seigneur. Et ils sont fondés sur la mort et de la résurrection de notre Seigneur. Et le Seigneur, par le Seigneur, nous sommes introduits dans ces relations et même dans tout qui est accompagné, qui est lié à ces relations du Père et de Dieu. Deuxième pensée. Je monte vers mon Père et votre Père et vers mon Dieu et votre Dieu. Ça peut être un peu étonnant que le Seigneur n'arrête pas avec vers mon Père et votre Père. C'est vraiment cette relation nouvelle qui n'existait jamais avant d'un croyant personnel avec Dieu comme Père. Mais le Seigneur ajoute vers mon Dieu et votre Dieu. Et d'après ce que nous avons entendu, il est clair que ce n'est pas Dieu comme tout-puissant, Dieu comme créateur. En effet, Dieu est plus que Père. Et la relation dans laquelle le Seigneur nous a introduits est plus qu'une relation avec Dieu comme Père. Si, encore une fois, nous regardons dans l'épître aux Éphésiens, maintenant dans le chapitre 3, c'est juste un exemple, dans cette deuxième prière que l'apôtre fait, il prie que les croyants puissent connaître, verset 19, l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Père, non de Dieu. Dieu est la source de chaque bénédiction qui peut exister. Ça veut dire, nous ne sommes pas seulement introduits dans la relation avec le Père, qui est vraiment unique, mais Dieu est encore beaucoup plus que juste qui est déjà une relation élevée du Père. Ça veut dire le Seigneur nous introduit dans toutes les relations qu'il connaît, qu'il connaisse avec Dieu comme homme, et il nous place dans toutes les bénédictions qui existent dans le cœur de Dieu et dans le cœur de Christ, du Père. Ça veut dire, ici, nous sommes vraiment placés dans un vaste terrain où Dieu peut donner tout ce qu'il a eu dans son cœur. Et nous avons aussi, dans ce chapitre de résurrection, n'est-ce pas, 1 Corinthiens 15, où l'apôtre nous montre que à la fin, 1 Corinthiens 15, verset 28, quand toute chose lui aura été assujettie, alors le Fils aussi lui-même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toute chose, afin que Dieu soit tout en tous. Ça veut dire le tout, on trouve vraiment dans Dieu, en Dieu. Et aussi dans ses relations, dans la jouissance de ses bénédictions et de ses relations, le Seigneur nous a placés, introduits. Troisième pensée, on peut poser la question, quelle est la fonction ici de Marie? Va vers mes frères et dis-leur. Est-ce que Marie devient maintenant une docteure, un docteur de la parole? Certainement pas. Je le dis parce que je vois aujourd'hui, et je ne peux pas dire des choses détaillées sur la France parce que je ne les connais pas. Je connais des choses en Allemagne et ça fait peur, assez peur, des développements des services et de la position que les sœurs, pas seulement les femmes dans le monde, mais les sœurs prennent dans l'Assemblée. Et ici, c'est certainement pas que Marie est devenue docteur. Elle est le canal béni pour transmettre exactement ce que le Seigneur l'a dit pour le transmettre aux disciples. Ça veut dire ce que nous avons ici, c'est pas du tout en contradiction avec ce que nous lisons dans 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, l'apôtre parle dans le verset 12 quand il dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur l'homme ». Ici, dans ce verset 12 de 1 Timothée 2, l'apôtre fait très clair qu'une femme n'a ni la fonction d'enseigner, ni d'user d'autorité sur l'homme. J'ai entendu quelques frères pensent que enseigner est lié ici dans le verset seulement si un frère est présent. Mais dans la langue originale grecque, ce verset est très clair. On peut le traduire littéralement « enseigner, mais je ne permets pas, ni user l'autorité sur l'homme ». Ça veut dire qu'il est très clair que ce n'est pas seulement interdit à une femme d'enseigner si un frère est là, mais toujours. Nous avons une autre chose dans Tite 2, certainement, mais dans Tite 2, il y a un autre mot qui est utilisé pour ce que les sœurs âgées sont encouragées à faire. Tite 2, il est dit dans le verset 4, afin qu'elles instruisent les jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, etc. Ça veut dire que c'est une instruction pratique dans des choses de la famille et de leur vie. Mais dans 1 Timothée 2, il est clairement enseigné que la femme n'a pas de place d'enseigner et utiliser d'autorité sur l'homme, sur leur mari et sur l'homme en général. Ici, ce n'était pas le cas avec Marie. Marie a juste transmis ce que le Seigneur a dit à elle. Elle a dit cela à ses disciples fidèlement, comme nous avons lu dans le verset 18. Marie de Magdala vient rapporter aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'elle lui a dit ces choses. Elle était fidèle, elle a eu l'amour, elle a, comme Pierrick nous a montré, elle a progressé dans la connaissance. Et troisièmement, maintenant, nous voyons qu'elle était obéissante. Vraiment un bel exemple pour nous aujourd'hui. Pas seulement pour les sœurs, mais pour nous tous.
Et dans ce rôle de Marie, si on veut continuer ce qui suit chronologiquement le verset 18, ben en Marc 16, il faut le lire, c'est triste à lire. Elle, s'en allant, l'annonça à ceux qui avaient été avec lui, qui étaient dans le deuil et pleuraient, et ceux-ci, apprenant qu'elle est vivant et qu'il avait été vu d'elle, ne le crurent pas. C'est solennel. Quand on est dans tout ce qu'on vient de considérer, de ce changement par lequel a passé Marie jusqu'à voir, reconnaître le Seigneur vivant, transmettre ce message qui a rempli son cœur, et qu'en est-il de cette transmission ? Ils ne le crurent pas. Et puis une autre pensée, je vais revenir en arrière, ce que Manuel vient de dire, avec un côté de question aussi. On a évoqué tout à l'heure Dieu comme ce créateur, comme le Tout-Puissant pour Abraham, comme celui qui se révèle à Moïse. Je comprends ces choses comme étant autant de choses que nous avons aussi encore nous. Nous avons des choses différentes, nous avons Dieu comme notre Père. Est-ce que plutôt que de dire que c'est quelque chose de plus élevé, est-ce qu'on ne serait pas plus juste en disant que c'est Dieu qui se révèle plus complètement à nous ? Mais il est toujours pour nous le Créateur, il est toujours pour nous le Tout-Puissant, il est toujours pour nous celui qui s'est révélé un jour à nous. C'est des choses qui demeurent, mais nous allons plus loin. La révélation qu'il donne de lui-même se complète jusqu'à ce moment où, vers mon Père et votre Père, où c'est le côté le plus intime, si on peut dire, le côté le plus proche, mais qu'il ne met pas de côté du tout, qu'il reste le Tout-Puissant, qu'il reste le Dieu du ciel, le Seigneur des Seigneurs. Toutes ces choses ne sont pas mises de côté pour autant. Je crois que c'est important, ça m'est arrivé un jour, il y a déjà quelques années, pour moi-même, de me rendre compte qu'au fond, on perdait de vue, on était en danger de perdre de vue, par exemple, le Créateur. Toutes ces choses qui nous entourent, nous-mêmes, ce que nous sommes, il nous a fait, selon sa pensée, selon son idée. Et il reste et doit rester, et nous avons besoin peut-être de renouveler toujours de nouveau notre regard sur toute chose avec ces différentes manières dont Dieu se fait connaître à nous. Pour ne pas... Un danger, il y en a probablement d'autres, c'est peut-être pas le danger le premier. Est-ce que à ne retenir ou à ne nourrir que cette relation d'enfant et de père, on n'est pas en danger de perdre la distance qui convient devant sa sainteté, par exemple. C'est juste un exemple. C'est un peu dans ce sens-là que j'apporte ces choses aussi, comme dit, si les frères ont quelque chose à corriger ou à compléter.
Une petite remarque sur... dans le verset 17, sur l'expression « monter vers mon Père ». Notre frère Hervé l'a souligné tout à l'heure. Et c'est aussi remarquable de comparer les différentes fois où l'ascension au ciel de notre Seigneur est présentée. Et on sait qu'elle n'est pas présentée en Matthieu, mais dans Marc et dans Luc. Dans Jean, on ne voit pas la scène de l'ascension, mais on voit la mention de l'ascension dans ce verset. Et je le fais remarquer parce que malheureusement, j'allais dire, notre version Darby française ne fait pas ressortir une nuance qu'il y a dans le texte original et qu'il y a dans la version Darby anglaise ou en allemand, par exemple. Marc 16, verset 19, quand il est question du Seigneur qui monte au ciel, il est dit « Il fut élevé en haut dans le ciel ». Et c'est cette idée, il a été pris en haut. Dans Luc, c'est traduit de la même manière dans notre Bible Darby en français. Tout à la fin de Luc 24, il est aussi c'est traduit par « élevé dans le ciel ». Verset 51, « Il fut séparé d'eux et fut élevé dans le ciel ». Mais c'est une nuance, en fait. Et c'est l'idée d'être... C'est celui qui est offert en haut, celui qui est porté en haut, avec cette idée, je crois, que comme les sacrifices étaient offerts à Dieu. Et c'est la perfection du Fils de l'homme qui est offerte comme un sacrifice et qui monte au ciel. Et dans Jean, il y a un autre verbe qui est utilisé, « je monte ». C'est vraiment l'ascension et on est frappé par cette manière de parler « je monte vers mon Père et votre Père ». Dans toute la gloire de sa personne, il monte lui-même vers son Père et son Dieu.
Quand j'étais un peu plus jeune, je trouvais toujours un peu dur que le Seigneur dise « ne me touche pas ». Par émotion, je comprendrais bien de vouloir l'embrasser. Mais nous avons déjà entendu qu'il y a des aspects qu'elle le voyait encore comme ce Messie qui voulait le royaume. Mais ici, il lui révèle quelque chose de merveilleux. Est-ce que nous réalisons, qu'est-ce que nous est révélé ici? Je monte vers mon Père et votre Père. Son Père, c'est notre Père. C'est une relation qui est incroyable, on peut dire. Que le Fils de Dieu est venu sur cette terre pour révéler le Père et pour chercher des enfants qui vont avoir la même nature comme lui, il a. Pour avoir cette même relation que lui, il avait comme homme sur cette terre, qu'on puisse l'appeler Père. Nous avons deux passages dans Romains 8 et Galates 4 qui nous parlent de cette relation que nous avons, que nous sommes. Là, il est mentionné adoption. Dans le langage humain, une adoption, c'est quelqu'un, je prends quelqu'un qui est le fils d'un autre, je le ramène dans ma famille, il porte mon nom. Alors, il devient héritier et comme un de mes fils. Mais ici, c'est encore plus. Ce n'est pas seulement ce que nous sommes menus d'une autre famille pour être intégrés dans cette famille, mais il nous a donné une nouvelle nature. Il nous a donné cet esprit pour avoir une nouvelle nature. Cette nature divine qui nous est donnée par l'esprit. Nous avons toute une autre relation maintenant qu'avant. Nous ne sommes pas seulement adoptés dans le langage humain, mais il nous a mis dans une relation qui est beaucoup plus intime. Est-ce que nous réalisons que nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes appartenant de la famille de Dieu, que nous avons cette même nature, cette même relation, et que nous pouvons l'appeler celui qui a appelé son père dans Marc 14, qu'il a appelé dans le jardin Gethsémané, il a appelé Abba, Père. Et dans Romains 8 et Galates 4, il nous a dit que nous pouvons appeler Abba, Père. C'est une relation qui doit nous faire tomber à nos genoux pour vraiment l'adorer. C'est comme l'apôtre Paul l'a fait en Éphésiens. Dieu est Père de notre Seigneur.
Marie dit, le Seigneur dit à Marie, ne me touche pas. Tout à l'heure, j'ai dit, finalement, Marie avait perdu deux fois son Seigneur. Sur la croix, quand les hommes l'ont mis à mort, même si nous savons que c'est lui-même qui a laissé sa vie, quand elle a vu ce sépulcre vide, elle pensait qu'elle avait été reprise. Et là, finalement, c'est le Seigneur lui-même qui dit, ne me touche pas. Elle le perd une troisième fois. Elle le perd comme elle le connaissait avant. Elle le perd comme ce Messie dont on a dit effectivement quelques mots tout à l'heure. Elle le perd une troisième fois. Mais c'est pour le retrouver d'une façon bien plus merveilleuse, effectivement. C'est pour le retrouver dans ces relations dont nous venons de parler tout à l'heure. Tout à l'heure, on a dit qu'il y a dans la vie chrétienne, finalement, dans notre vie, de la progression. Quel changement il y a eu en très peu d'heures chez Marie. On voit son désarroi, on voit sa détresse, on voit sa souffrance, ses pleurs au début de ce chapitre, et on voit effectivement qu'elle peut être l'objet que le Seigneur, seul que le Seigneur utilise pour envoyer ce message merveilleux. On peut avoir dans nos vies aussi, Marie, quand elle vient au chapitre 20, elle était croyante. Et il y a dans nos vies aussi des étapes et dans lesquelles nous avons besoin de rencontrer le Seigneur. Il peut y avoir des souffrances, il peut y avoir des détresses dans nos vies. Et alors peut-être que nous perdons de vue le Seigneur tel qu'il est. Et alors le Seigneur vient pour se révéler comme il est. Et combien cela est merveilleux, cette croissance, effectivement, elle a lieu tout au long de notre vie. Mais combien il y a des étapes dans notre vie, je pense que nous en avons peut-être tous passé par ces étapes, où on sent qu'il y a un avant et un après. La croissance du petit enfant à l'homme fait, elle s'aperçoit pas d'une certaine façon, elle est continue. Et pourtant, il y a des étapes dans notre vie aussi, et on l'en voit ici, dans la vie de Marie, des étapes où il y a un avant et un après, et où Marie est introduite dans quelque chose de merveilleux ici. Je vais faire remarquer aussi que cette annonce que le Seigneur fait à Marie, les disciples étaient des croyants avant, ils avaient la vie divine. Pourtant, ils ne connaissaient pas Dieu comme leur Père, comme leur Dieu, puisqu'ici, et comme on l'a dit tout à l'heure, ici le Seigneur leur dit, c'est maintenant, c'est à partir de maintenant. Et nous avons cité l'Épître aux Éphésiens, mais peut-être il faut y revenir, juste pour citer un autre verset, dans le premier chapitre. Dans le premier chapitre, il est dit, au verset 5 d'Éphésiens, « Nous ayant prédestinés pour nous adopter, » on a parlé de l'adoption tout à l'heure, « pour nous adopter pour lui, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. » Pour nous adopter pour lui, par Jésus-Christ. On a évoqué hier soir comment, au travers de l'Évangile selon Jean, comment les choses que Dieu avait déterminées s'accomplissaient, petit à petit, concernant son Fils. Mais ici, on voit que, qu'est-ce qu'ils avaient fait, les disciples, finalement, pour pouvoir être introduits dans cette position si merveilleuse, dans ces relations si merveilleuses? Rien. Ils n'avaient rien fait. Mais c'est le conseil de Dieu qui s'accomplissait à ce moment-là. Ce que Dieu avait destiné à l'avance, il nous avait destinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, c'est ça aussi qui s'accomplissait, et à l'égard de ceux qui étaient les objets justement des desseins et des conseils éternels de Dieu. Est-ce que nous avons conscience de cela aussi? Que cette relation dans laquelle nous sommes d'enfants vis-à-vis de Dieu, elle prend sa source dans les desseins éternels de Dieu, alors que nous n'existions pas, alors que la terre n'existait pas. Tout cela prend sa naissance dans le cœur et dans les pensées de Dieu à ce moment-là. Nous n'y sommes pour rien, les disciples n'y étaient pour rien, simplement ils avaient la foi, et cette foi les met au bénéfice de l'œuvre qui venait d'être accomplie, l'œuvre, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. La mort, elle met une fin définitive à quelque chose. Et elle réintroduit ici, la résurrection réintroduit quelque chose. C'est ce qu'on voit dans tout ce chapitre qui a été développé tout à l'heure. Il y a quelque chose de nouveau qui est introduit, et c'est ce que le Seigneur annonce ici à Marie. Et combien c'est beau, effectivement, de voir ces choses. Il y avait un Messie sur la terre. Le Seigneur dirige ses pensées vers le ciel. Je monte vers mon Père dans le ciel. Il y avait des relations comme des sujets dans un royaume. Il y a maintenant des relations comme des enfants vis-à-vis d'un Père, et aussi effectivement comme Dieu, peut-être pour corriger cet aspect qui a été évoqué tout à l'heure, où avec un Père on pourrait avoir une certaine familiarité. Mais Dieu reste notre Dieu, et c'est ce que le Seigneur dit, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.